Cinquième épisode de la chronique L'économie en fait c'est cool et aujourd'hui on va parler de revenu universel. Alors salut Lilian, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est le revenu universel ?
Oui, alors en quelques mots, le principe du revenu universel, c'est que chaque personne, qu'elle travaille ou pas, reçoive chaque mois une somme d'argent.
Ah ben ça commence bien.
Oui, et l'idée c'est que tout le monde reçoit cette somme d'argent, et ce de manière inconditionnelle et sans contrepartie.
Et est-ce que tu peux préciser ces deux mots, inconditionnel et sans contrepartie ?
Oui, ben ça veut dire que, en fait, pour toucher votre revenu universel, vous n'avez pas à répondre à certaines conditions. C'est le cas, par exemple, avec le RSA. Hein. Le RSA, il faut, par exemple, avoir minimum 25 ans pour le toucher. Et dans ces cas-là, il faut donc répondre à certaines conditions, alors que ce n'est pas le cas avec le revenu universel. Et on ne peut pas non plus vous demander de contrepartie, ce qui est le cas, par exemple, pour les bénéficiaires de l'assurance chômage. Eux, ils doivent prouver qu'ils cherchent du travail ou qu'ils suivent des formations, etc.
Alors le revenu universel, c'est donc une somme que l'on verse à tous et à toutes, sans aucune condition, autrement dit, tout le monde y a le droit.
Oui, tout le monde. Et pour reprendre la formule qu'avait dite Benoît Hamon, qui portait lui-même un projet de revenu universel pendant les dernières élections présidentielles, et bien selon cette formule, ça veut dire que même Madame Bettencourt, elle recevrait quelques centaines d'euros par mois avec un revenu universel.
Alors Madame Bettencourt, je rappelle vite fait, c'est l'héritière du groupe L'Oréal et c'est aussi une des personnes les plus riches du monde. Et puisque le revenu universel ne suppose aucune condition, elle y aurait le droit aussi. D'ailleurs, elle aurait le droit à combien si elle le percevait ?
Eh bien, selon les différents projets, le montant proposé n'est pas le même. Il se situerait entre environ 200 et 1200 euros.
Parce qu'il y a plusieurs types de projets, donc ?
Ouais, il n'y a pas qu'un seul projet de revenu universel, mais il y en a plusieurs. Et chacun, ils ont leurs spécificités, leurs points de divergence, etc. Et c'est pour ça qu'on parle de projets avec des noms différents, tels que le projet de revenu garanti, le revenu de base, ou le revenu d'existence, ou le revenu de vie, etc., etc. Et ces différents projets, ils ne font pas tous tout à fait la même proposition, ni sur la somme allouée, comme je l'ai dit. Il y en a certains qui vont proposer un revenu universel à 200 euros par mois, d'autres qui vont proposer 500 euros par mois, d'autres 1000 euros par mois. Et ils ne proposent pas tous les mêmes propositions en termes de financement du dispositif. Mais bon, au-delà de ces nuances, hein, l'idée centrale, c'est quand même la même. C'est une somme fixe pour tout le monde, sans condition.
Et est-ce que tu peux nous donner vite fait les arguments de ceux qui défendent ce projet de revenu universel ?
Oui, bien sûr. Alors, parmi les arguments en faveur du revenu universel, il y a l'idée qui permettrait de lutter contre la précarité. L'idée, ce serait que si tout le monde a une petite somme d'argent chaque mois, personne ne se retrouverait totalement démuni. Un deuxième argument, c'est que le revenu universel, il permettrait à celles et ceux qui le souhaitent de s'investir davantage dans autre chose que leur travail et d'exister autrement que par sa profession. Et ici, le revenu universel, il permettrait de passer moins de temps à travailler et d'en passer plus à travers d'autres formes d'engagement, comme à travers une association ou un engagement politique ou un syndicat ou une structure caritative ou une association d'aide à la personne. Mais ça peut être aussi d'avoir plus de temps pour avoir une pratique artistique ou une pratique sportive ou passer plus de temps à lire, à se cultiver, à apprendre une langue ou aller plus passer du temps pour faire un potager, pour bricoler, pour aider ses voisins, etc. Mais ça peut être aussi encore avoir plus de temps à consacrer à ses proches, à sa famille, à ses enfants. Bref, avoir plus le temps pour ce qu'on aime faire ou pour ce qui est utile. Et plus qu'avoir du temps, le revenu universel, ça permettrait de faire reconnaître que toutes ces occupations que j'ai citées là, hein, qui rapportent rien d'un point de vue monétaire, qui ne sont pas comptées dans le PIB, elles peuvent être pourtant perçues comme une vraie richesse, parce qu'elles sont utiles à la collectivité. Aider les autres, s'occuper de sa famille, faire du bénévolat, soutenir une cause, tout ça, ce n'est pas rémunéré, tout ça, ce n'est pas pris en compte dans le PIB, mais pourtant, tout ça, c'est essentiel. Du coup, le revenu universel, il permettrait une reconnaissance de ces activités essentielles à la collectivité.
Ok, alors ça, j'imagine que ce sont des arguments qui parlent à beaucoup de monde, mais j'imagine aussi que donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, il y en a d'autres, ça ne doit pas trop leur plaire, non ?
Eh oui, c'est clair que pour ceux qui considèrent qu'on assiste trop les gens, ou qui ne vont jurer que par la méritocratie ou la valeur du travail, ben, ceux-là, ils risquent de ne pas vraiment apprécier ce système. Hein. Et c'est vrai que cette proposition, elle génère quand même beaucoup de débats. Entre d'un côté ceux qui considèrent que le revenu universel, il motiverait les gens à s'investir, et d'autres qui pensent qu'au contraire, avec un revenu universel, on irait vers une société de fainéants. Mais du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce que je viens de dire, on pourrait croire que le revenu universel, en gros, ceux qui sont à gauche, ils sont plutôt favorables, et ceux qui sont plutôt à droite, le détesteraient. Mais en fait, justement pas. Ce qui est intéressant avec le revenu universel, c'est que non seulement il y a des gens, on va dire, plus à gauche, ou avec une fibre sociale, qui ne l'approuvent pas, mais en plus, parmi les partisans du revenu universel, il y a beaucoup de partisans d'une certaine forme de libéralisme économique.
Ouais, mais des libéraux qui soutiennent un système d'aide sociale, ça a l'air un peu contre-intuitif, non ?
Eh oui, ça a l'air, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les propositions de revenu universel, il y a celle qui consisterait à remplacer toutes les aides sociales existantes par le revenu universel. Par exemple, là, l'idée, ce serait qu'on supprime le chômage, on supprime le RSA, on supprime tous les mécanismes de protection sociale et on donne à tout le monde une somme d'argent et après, chacun se gère avec son revenu universel. Et les avantages qui auraient derrière ça, ce serait d'abord d'éviter la stigmatisation des bénéficiaires. Ça permettrait aussi de limiter la fraude parce qu'il n'y aurait plus besoin de faire de contrôle et donc ça simplifierait le système. Mais là où ça pose question, c'est que derrière cette idée-là, il y aurait quand même une certaine volonté de détruire notre système de protection sociale et de revenir questionner certains minimums sociaux comme le SMIC. Et derrière ça, il y a le risque que finalement se reproduisent et s'accentuent les inégalités sociales. Parce que par exemple, s'il n'y a plus de salaire minimum, ben ça permet aux entreprises de pouvoir embaucher à très bas coût et donc potentiellement d'exploiter davantage le salarié. Et donc avec tout ça, ben on ne règle pas la question des inégalités.
Ok, je crois que je comprends mieux. Alors, d'un point de vue libéral, le revenu universel, c'est aussi une opportunité de réduire la protection sociale.
Oui, c'est ça. Et puis, du coup, on comprend mieux aussi pourquoi, même à gauche, il y a des gens qui n'apprécient pas le revenu universel. Pour certains d'entre eux, le vrai combat, il ne porterait pas sur un système dans lequel il y a moins de travail et où tout le monde reçoit des sous, mais plus, le vrai combat, il porterait sur un système dans lequel il y aurait du travail pour tout le monde et dans lequel on tente de mettre en place un véritable partage de la richesse créée.
Alors, je vais faire mon travail de mystérieux interlocuteur et résumer tout ce que tu viens de nous dire. Pour les gens qui sont favorables au revenu universel, ça permet de faire reconnaître des activités qui sont utiles à la collectivité et qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Ça permet aussi de lutter contre la précarité puisqu'on garantit une somme minimale à tout le monde et sans condition. Et puis pour d'autres, le revenu universel, c'est aussi un bon moyen de mettre fin au système de protection sociale. Et enfin, il y a ceux qui pensent que le sujet important, c'est pas la mise en place ou non du revenu universel, mais plutôt le partage juste du travail et des richesses qui sont produites. Alors ça, c'est pour la théorie. Et en pratique, est-ce que ça a déjà été expérimenté quelque part ?
Alors oui, à travers le monde, il y a pas mal d'expérimentations qui ont été mises en place. Mais bon, là, je vois que l'heure tourne et je pense pas qu'on ait le temps d'en parler. Donc,
t'inquiète, on a tout notre temps. On peut en parler maintenant si tu veux.
Allez, j'avoue, en fait, c'est juste moi, voilà, j'ai pas eu le temps de recenser toutes les expérimentations. Allez, je vais être honnête avec toi, Yann, j'ai juste pas eu le temps, mais promis, juré, craché, on en reparle très bientôt. Et ce qu'on verra, c'est qu'entre toutes ces initiatives-là, comme celle qu'il y a en Finlande, ou celle qu'il y a en Iran, ou celle qu'il y a au Canada, ben, tout ça, c'est des projets très différents qui, finalement, ils n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres.
Et on en parle la semaine prochaine, alors ?
Et non, parce que la semaine prochaine, j'aimerais bien parler d'un sujet d'actualité qui est la réforme de l'assurance chômage.
Ah oui, effectivement, c'est d'actualité. Du coup, on va attendre un peu et parler plutôt de ça. Eh bien, à la semaine prochaine, alors ?
À la semaine prochaine !